Nous allons donc revenir aujourd'hui à la fameuse, à la très grande et importante troisième béatitude. Je pense que vous aimeriez nous parler un petit peu du concept de la notion de prophète dans le cadre de la béatitude des affligés.
Oui, parce que le premier ministère est le plus important, d'ailleurs, que dit saint Paul, c'est pas de parler en langue puis de chanter en langue, c'est le ministère pas de prophète, c'est-à-dire de parler avec intelligence de la situation humaine pour créer dans l'homme des ouvertures, une ouverture. Alors, au fond, cette béatitude-là nous permet de sortir de nos enfers, quand on y est, évidemment. Alors, par exemple, Jean-Paul Sartre avait dit « l'enfer, c'est l'autre ». Bon, un homme très intelligent. Julie Schneider a dit « l'enfer, c'est nous autres ». Bon, alors « l'enfer, c'est nous autres », oui. Et c'est une bonne animatrice. Elle a dit « Jean-Pierre Ferland, ben Ferland, c'est l'enfer, mais à l'envers. Le, » c'est sûr que Jean-Pierre Ferland n'est pas vraiment en enfer. Il aime les femmes, il est proche de Dieu. Un jour, il lui demandait « Êtes-vous croyant? Que pensez-vous de Dieu? » Ben, il disait « C'est compliqué pour moi, ça. J'aime mieux les femmes. » Au fond, il n'en est pas si loin, au fond. Alors, c'est certain que...
C'était son moyen d'y arriver, peut-être.
Ben oui, il fonctionne bien. Alors, c'est un prophète du Québec à sa manière. On a vu que Jean Lapointe aussi s'en est un. On peut voir Jean Vanier qui nous indique des routes. Les Mongoliens sont des prophètes fantastiques puisqu'ils ont le dehors tout à l'air, parce qu'un Mongolien, c'est pas capable de mentir. Alors, des prophètes, on a. Et les artistes sont nos premiers prophètes de notre culture. C'est eux autres qui nous trouvent des chemins dans notre culture. Et évidemment, il y a des vidangeurs là-dedans qui font du ménage. Mais nos artistes sont très précieux, parce que l'artiste, c'est déjà quelqu'un qui prend une distance face à la réalité. Et ce sont déjà un peu des thérapeutes. Évidemment, pas toujours complètement garantis, mais quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que le prophète? Si on en regardait au sens strict, le prophète, c'est quelqu'un qui dit la douleur profonde qu'il endure, alors que les autres n'osent pas la dire. Et c'est déjà quelqu'un qui nous réoriente. Mais comment faire pour devenir prophète? Le prophète, c'est quelqu'un qu'on ne peut plus manipuler. On ne peut plus le manipuler ni par les plaisirs, ni par l'argent, ni par les honneurs. C'est quelqu'un qui, en fait, psychologiquement, a comme tout perdu. Et maintenant, c'est Dieu seul qu'il va entendre et écouter d'abord. Et il va dire le message de Dieu, que ça plaise ou pas. Alors, un prophète, c'est quelqu'un qui, en un certain sens, se fout tout le monde pour les aimer, pour nous aimer tel qu'on est.
Il est dépourvu de toutes ses écorces.
Là. Il est dépourvu, oui. Son âme devient à nu. Et il y en a des prophètes dans notre culture. Par exemple, ceux qui prêchent les réconciliations universelles, ceux qui prêchent les guérisons des multinationales qui sont en train d'ailleurs de se faire travailler par la grâce terriblement. Il s'agit de voir le club de Rome. Il y a des prophètes qui nous parlent qu'on peut détruire la fin de l'monde, le FAO qui était justement né à Québec. On a le mouvement développement EPEC qui sont nés au Québec, qui est une commission romaine qui existe dans un diocèse en dehors de Rome. C'est la seule à ma connaissance. Alors, il y en a des prophètes. Mais comment on le devient? C'est en allant au fond de ses souffrances pour les guérir, ensuite pour dire les chemins, pour retrouver la route.
D'accord. Merci. Vous dites que la douleur et la souffrance provoquent nécessairement un sentiment d'isolement, mais que si on y réfléchit, on n'est jamais tout à fait seul. Vous écrivez « Il y a toujours quelqu'un qui t'aime, quelque part, qui prie pour toi, a prié ou priera. » Ce quelqu'un, c'est le Christ, évidemment. Mais est-ce que c'est pas naturel de vouloir que ce quelqu'un dont vous parlez puisse aussi s'incarner dans une personne humaine avec qui on puisse dialoguer? Est-ce qu'on pourrait dire d'égal à égal?
Ben oui, si deux personnes deviennent égales un jour, c'est bien le thérapeute puis le malade. C'est-à-dire qu'il n'a plus entre eux de problème pour se parler ni s'écouter. C'est certain que le salut, c'est l'amour. Alors, dès qu'on parle à quelqu'un d'égal à égal, il n'y a pas de hiérarchie dans l'amour. Un premier ministre peut tomber en amour avec une laveuse de plancher. Dieu nous veut avec nous d'égal à égal. Autrement dit, dans l'amour, il n'y a pas de limite ni de race, ni d'âge, ni de sexe. Et oui.
Ce que j'essaie de vous dire, c'est que finalement, le Christ peut passer par n'importe qui.
Non seulement il peut, mais il passe, seulement qu'il n'est pas toujours entendu. Tantôt, je parlais du prophète. J'aimerais qu'on se lise deux textes d'Écriture sainte, parce que j'invente pas tout ça, moi, en dormant sur un sofa, là. Il y a des sources à tout ça. Alors, par exemple, si nous prenons le livre de la sagesse, 3, 1 à 9, comme on passe l'or au feu du creuset, au fond, comment devient-on amoureux? La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. C'est grave, ça. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis. Alors qu'ils sont dans la paix, aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment. Mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de chose, auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur comme un sacrifice offert sans réserve. Il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront. Ils étincelleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples, et le Seigneur règnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Prenons nos textes d'Évangile, juste pour le signaler. Jean 12, 24 à 26. Si le grain meurt, il donne beaucoup de fruits. Quelques jours avant Pâques, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. » C'est quoi ça veut dire tout ça? Celui qui aime, sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde, la garde pour la vie éternelle. C'est quoi ça veut dire ça?
Ça m'a l'air de toute une série de contradictions.
Ça m'a l'air, mais c'est la sagesse. C'est-à-dire que si tu acceptes de souffrir pour l'être que t'aimes, tu l'aimeras jusqu'à mort sans suivre, puis des os à la peau, des orteils aux oreilles. C'est que tout ça, là, c'est que l'amour, là, c'est pas une partie de fun ni de plaisir. L'amour, c'est pas de fuir la douleur ni les souffrances. L'amour, c'est la communion entre deux personnes. Et on s'unit beaucoup plus à travers des épreuves qu'à travers des plaisirs, parce qu'au fond, les épreuves nous aident à nous retrouver nous-mêmes. Au fond, toutes les questions qu'on pose, la réponse, c'est devenir soi-même.
La souffrance et le mal ne sont pas bénéfiques, mais bien les fruits qui en germent. Vous en avez parlé tout à l'heure au sujet de Jean. Si tu souffres, c'est qu'il y a un mal à ôter en toi-même et dans les autres. Sois le guérisseur de ta souffrance, remédie à celle des autres et tu vivras le mal dans la béatitude. Ce sont vos paroles, évidemment. Est-ce que vous dites qu'en vivant le mal dans la béatitude, selon votre expression, le mal devient plus acceptable, mieux guérissable?
Oui. Le Christ lui-même a été heureux dans nos souffrances parce qu'il savait très bien qu'il nous guérissait par son amour en les souffrant.
Point à la ligne.
Ben, ça veut dire qu'il y a comme deux façons de souffrir. Il y a une manière qui est destructrice, c'est quand tu n'as plus d'espérance. Tu te laisses écraser.
Celle-là, elle est vraiment mortelle.
Elle est mortelle, mais c'est une étape de la vie de foi. Les saints ont vécu ça. Des sortes de dangers de désespérance. Le Christ, lui, a évidemment jamais désespéré, mais il a vécu notre désespérance. Pour ça qu'il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a jamais abandonné, il sait très bien, mais il vit cette désespérance que nous vivons.
Dans sa nature humaine, il l'a senti.
Absolument.
Que Dieu l'a abandonné.
Absolument. Il l'a senti, il l'a vécu. Il a vécu notre péché, il est devenu péché pour nous, c'est-à-dire rupture d'amour définitive. Alors, à ce moment-là, il accepte de vivre ça. Au fond, Satan dit non à la souffrance, puis Jésus dit oui. Pourquoi Satan dit non? Parce que c'est bien trop le fun de jouer. Aller aux noces, c'est bien plus plaisant qu'aller au deuil, aller à des funérailles. Mais par contre, en refusant les souffrances, on engendre en nous des maladies, puis on brise notre identité. Au fond, un alcoolique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit lui-même. C'est quelqu'un qui suit lui-même. Il a un problème d'identité. Alors, il veut pas souffrir, il prend un coup. À un moment donné, il prend un coup pour oublier qu'il prend un coup. À un moment donné, il est en cercle vicieux, il n'en sort pas. Et n'importe quelle perversion, c'est toujours un refus de souffrir. On a refusé de souffrir. Le thérapeute lui dit un instant, on revient là-dessus. Puis là, on vit ça, puis là, on dit, on est capable d'en sortir. Alors, le Christ, alors il y a une manière de souffrir qui est destructrice. C'est celle où on est écrasé. Puis il y a une manière de souffrir qui est rédemptrice, c'est que on fait du mal un instrument pour démontrer notre amour et nous guérir. Alors, quelqu'un qui a mal à la tête parce qu'il prend un coup, puis qui se cogne la tête après le mur, ça dépend pas du mur. Ça dépend pas de la boisson non plus. Il y en a à messe de la boisson. Et quelqu'un dit maudite femme. Les femmes sont bonnes, il y en a à messe. La boisson, il y en a à messe. Des femmes, il y en a à messe. Quelqu'un dit maudite vie, c'est une cochonnerie. Il a tort parce que la vie, c'est excellent. Seulement qu'il est pas heureux. Alors, il maudit tout. Qu'est-ce qu'on maudit? Ce dont on a abusé. Ce avec quoi on a une mauvaise relation.
Dans le débat sur le mal, vous avez parlé de 3 degrés de mal. Le mal naturel, le mal volontaire, les fausses lumières. Avant d'élaborer là-dessus, si vous voulez, j'aimerais savoir pourquoi c'est important de connaître des degrés de mal. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que le mal, ce n'est pas le mal tout simplement? Est-ce que, pour le bien d'ailleurs, comme pour le bien, j'ai du mal à m'imaginer que le mal est une vérité relative. C'est ça le problème.
Exactement. Le mal, c'est un manque. Par exemple, mes cheveux dans la soupe, c'est pas bien. Sur la tête, c'est très bien. Le mal, c'est quelque chose qui n'est pas à sa place. La femme du voisin est très belle. Que je sois gentil avec elle, c'est parfait. Mais jusqu'à coucher avec, c'est un problème. Alors, le mal est complexe. Faut le démêler.
Il est donc relatif.
Il est relatif, mais il est complexe. Par exemple, vous donnez un exemple. Il faut d'abord... Là, aujourd'hui, tiens, on va se pencher sur un grand mystère. Le mystère du corps puis de l'âme.
D'accord.
Alors, prenez par exemple le plaisir physique. Bon, j'aime une pomme, une tarte aux cerises, une tarte au caramel ou bien une tarte au sirop d'érable. Ma femme en fait, c'est terrible. Moi, on appelle ça la tarte IMAX. Alors, ma femme a fait une tarte. Bon, mes cellules rentrent en fête, c'est la grosse fête de mes cellules. Ça, c'est une grâce de Dieu.
C'est la fête des sens.
C'est la fête des sens, parfait. Bon, Toshiba dit « la science au service des sens ». Bon, ben, à cause de la télévision, tout ça. Ils ont raison.
Et la musique aussi.
Et la musique aussi. Ils ont bien raison. Seulement que les sens, il faut qu'ils soient au service de l'esprit. Ah, ça, il ne dit pas encore. Peut-être qu'un jour, il verra rentable.
Non, la publicité ne nous annonce pas ça, c'est
sûr. Elle n'est pas rendue là. Elle n'est pas rendue là. Là, c'est achète-moi une télévision. Alors, évidemment que les sens doivent être au service. Alors, le plaisir est au service des sens. Les sens sont au service de l'esprit. Bon, maintenant, jouir, ça a une limite. Si tu me fais trop jouir, au moment donné, je suis tellement excité que ça fait mal. Alors, je dis arrête. Ça veut dire que le plaisir a une limite. Le plaisir du corps a une limite. Par contre, quand tu me fais souffrir, on dirait qu'il n'y a pas de limite au niveau physique. Si tu me rends des aiguilles, tout ça, on dirait que je souffre plus que ce que je jouis. D'ailleurs, si tu me donnes un bon repas, puis si j'ai mal à une dent, c'est rien qu'une petite bâtince de dent, mais tout le repas est gâté.
Ce qu'ils vont me dire, c'est que la capacité de souffrance, elle est comme plus grande que la capacité de jouissance.
Pour le corps.
Pour le corps, oui, corporel.
Parfait. On se comprend très bien. Montons à un autre niveau, la souffrance maintenant. Ça, c'est la douleur de l'âme. Par exemple, si on mange un bon repas entre nos deux qu'on s'est préparé, puis avec les chandelles, puis la nappe carottée, puis tout ça, puis c'est bon, bon steak, bon patates frites, c'est tout bon. Puis là, on se regarde dans les yeux, puis on s'aime dans les yeux, puis on s'admire dans les yeux, puis on commence à se faire des confidences. C'est le jackpot, c'est-à-dire que là, on est passé d'une nourriture matérielle excellente à une nourriture spirituelle
qui est bien plus fort. Oui.
La preuve, c'est que si on commence à chicaner puis qu'on se dit qu'on est écœurant, le repas est plus bon, on sacre ça là, c'est plus bon. Pourtant, leur pas est excellent. Un chien va ramasser ça sans problème.
Le plaisir est anéanti.
Par une douleur, une souffrance plus grande.
D'un niveau supérieur.
D'un niveau supérieur. Ça. Maintenant, continuons encore l'expérience. Atteignons le fond de l'âme. si à un moment donné, même en faisant ça, on se réconcilie, puis on se dit, ben, je m'excuse là, puis on commence à retrouver notre image réelle, notre confiance, notre valeur, puis je commence à t'aimer encore dans tes yeux, puis tout ça, et ça renaît. L'amour se tue pas. Ce qui arrive, c'est des blocages qui se posent. Alors, si on en est à force de se réconcilier, puis on se réconcilie, puis on se réconcilie, on va venir que nos chicanes, on va les trouver drôles, parce qu'on va savoir qu'ils brisent rien de profond entre nous autres. Alors, on va chicaner, puis finalement, on va dire, on partira rire parce qu'on sait qu'on s'aime. On s'aimera toujours. Oui, je t'ai dans la peau, puis c'est fini de même. T'sais, on ne peut plus de coller de l'un de l'autre. Ben, c'est ça la béatitude de ceux qui pleurent. C'est qu'on s'est guéri.
Les fausses lumières, où est-ce qu'elles sont là-dedans?
C'est penser qu'on ne peut pas se guérir. Ou encore de continuer dans nos perversions, pensant qu'on va s'en sortir en allant chez la femme du voisin, en prenant un coup, en faisant de la vitesse. Tu n'en sortiras pas, tu te cales de plus en plus.
Et puis on le découvre tôt ou tard.
Oui, parce
qu'elles sont fausses.
C'est un mensonge.
Qu'on se fait à soi-même.
C'est un songe de l'esprit qui se réalisera jamais.
Une fausse impression.
Comme la souris qui voit du fromage sur une trappe. La souris est excellente, sans ça, la trappe n'est pas bonne. T'as une bonne trappe, un bon fromage sur la trappe. La souris va là, puis elle perd la carte. Hein? Alors, il faudrait qu'elle prenne son fromage ailleurs. Alors, d'où doit-on prendre notre bonheur? En nous-mêmes. Mais comment trouve-t-on le bonheur en nous-mêmes? En aimant quelqu'un en lui-même.
Le concept de justice intérieure paraît très important dans votre analyse de la béatitude. Est-ce que vous pourriez d'abord nous définir ce que c'est pour vous, la justice intérieure?
C'est l'amour. La justice intérieure, c'est la cohérence parfaite avec l'être aimé. C'est l'amour.
Bien. Alors, pourquoi est-ce que vous faites un lien nécessaire entre justice intérieure et justice sociale? Est-ce qu'on est vraiment tous en mesure de réaliser la justice sociale? Est-ce que la justice sociale, ce n'est pas un objectif réservé aux gens de pouvoir?
Ça, attention, là, ça me ferait rire, parce que s'il fallait que ce soit réservé aux gens de pouvoir, il faudrait canoniser d'abord les politiciens. Ils ont de l'ouvrage aussi, eux autres, sur eux-mêmes.
Ben, je vous tire la pipe un peu, là, c'est
ouais,
clair.
C'est fort. Alors, revenons à nous autres. Alors,
qu'est-ce que nous, on peut faire?
Oui, c'est ça. Alors, le pouvoir, le savoir, puis l'avoir, ça peut devenir une grande perversion. C'est qu'il faut renaître dans l'amour, dans le partage et dans la connaissance de l'autre. Et là, le pouvoir sera utile parce qu'il deviendra un service. L'avoir un partage, puis le savoir une connaissance. Alors, maintenant, la question était... Justice extérieure, oui. Justice extérieure.
C'est la justice sociale.
Ben, elle est nécessaire, la justice extérieure, parce que si je dis que je t'aime, puis je te donne des coups de pied sur les jambes, tu vas dire, essaye de m'aimer autrement, hein? Alors, l'œuvre extérieure est faite pour exprimer l'intérieur et non pas le contredire. Alors, en fait, la justice extérieure, ça devrait être l'expression de l'amoureux. Là, elle atteindrait parfaitement son but.
Durant la pause, M. Truchon, vous m'avez annoncé qu'il vous restait deux belles phrases à dire. On vous écoute.
Ah oui, deux belles phrases qui valent pas mal d'argent, coûtent cher. Deux phrases. C'est que la justice sans l'amour, dans le plan de Dieu, est un échec. Même si la police est en vacances, tout ça, là, c'est un échec. Parce que le plan de Dieu, c'est pas que le voisin avec ses marteaux, puis ses clous, puis il reste dans sa cour. Le plan de Dieu, c'est pas la justice, c'est l'amour. Par contre, l'amour sans la justice est un mensonge. Alors, il nous faut absolument les deux. Autrement dit, la vérité...
Parce que la justice, elle s'actualise, là, c'est pas
voilà,
un concept, ça.
Voilà, c'est une expression, la justice. Alors, au fond, la justice extérieure, c'est l'expression de la justice intérieure, mais seul l'amour peut nous satisfaire, peut nous rendre heureux. Mais à ce moment-là, quand on aime, on blesse pas l'autre, donc on est juste. Et non seulement on est juste, ou bien plus que juste. Alors, prenez un contrat de mariage, quand on se marie, et là, ordinairement, c'est pas rien que pour être juste, là. Alors, on prend le contrat, puis on le met dans le tiroir, puis ça reste là. Mais oui. Quand on chicane, on le ressort.
Là, on le ressort.
On le ressort. Il faut le ressortir, parce qu'il y a un instant, ça n'a plus de bon sens. Au fond, on ne s'aime plus. Alors, même, alors, on n'est plus juste non plus. Alors, tant qu'un homme n'est pas vraiment amoureux, il n'est pas vraiment vertueux.
Au fond, c'est quand on doit revenir à la loi écrite plutôt que de la loi de l'esprit dont on parlait tantôt.
On l'a perdu, notre loi,
parce
en dedans.
Est partie.
Mais quand on la retrouve en dedans, quand est-ce que la loi apparaît? Quand le péché est là? Au fond, quand il n'y a pas de péché, il n'y a pas de loi. Alors, c'est comme quelqu'un qui a pas mal à l'estomac, il ne sait même pas qu'il y en a un. Mais quand il a mal, là, il commence à fouiller.
À la question de savoir si on peut remédier à la souffrance, vous dites que oui, c'est possible, en travaillant à connaître et à dominer la création. Ça encore, c'est un objectif bien relatif. Vous savez bien, par exemple, qu'on ne peut pas espérer découvrir les remèdes à certaines grandes maladies d'ici de nombreuses années, qu'en conséquence, c'est une consolation bien vaine pour les gens qui en sont atteints aujourd'hui. Vous voyez à quoi je veux en venir?
Oui, mais je penserais, c'est à la médecine préventive, c'est bien plus simple de ne pas se rendre malade. Alors, franchement, il faut réorienter une médecine de prévention. Maintenant, il faut quand même soigner les maladies qui sont là.
Ben, j'allais vous parler des grandes maladies héréditaires,
oui.
Là. Bon.
OK. Alors, ah, mais tout. Ça, on viendra peut-être en corriger un chromosome. Parce que là, on commence à rentrer dans le logiciel, là. Là, ça commence à être grave, parce que...
Alors, c'est très sérieux quand vous dites dominer la création, là, c'est réel.
Ah, c'est réel, c'est Dieu, ça. Prenez, par exemple, une graine. Je prends une graine de salade, puis je prends une graine de carotte. Bon. Les deux sont bien petites, là, mais il faut pas les mêler parce que c'est pas pareil, c'est pas le même programme. Alors, tu prends les deux graines, tu les mets dans la même terre, puis pourtant, l'un, ça fait une salade, l'autre, ça fait une carotte. Autrement dit, il y a un programme. Alors, dans la nature, c'est plein de programmes. Mais Dieu a donné un pouvoir, aujourd'hui, on le voit bien, de venir s'insérer dans ces programmes. On l'a vu au niveau physique avec la bombe atomique, l'énergie nucléaire. Là, maintenant, on rentre dans la possibilité de créer des nouvelles espèces, des nouveaux êtres, et même de corriger des chromosomes. C'est-à-dire, par exemple, le chromosome 43, qui est pour les Mongoliens, peut-être qu'on viendra à guérir ça. Ben moi, je suis content d'avoir un Mongolien. Ça a été ma survie à la tête dure.
Vous dites que la béatitude des affligés... Elle est le lieu des ministères et qu'elle marque la puissance de Dieu comparée à la faiblesse humaine. Attendez un petit instant.
Mm-hmm.
Mais dans le même paragraphe, vous affirmez qu'elle est aussi la libération de l'homme par Dieu qui veut le purifier, le faire grandir, le faire porter au-delà de son bonheur, de sa foi et de ses visions.
Mm.
Fin de la citation. Aux yeux du profane, ça peut paraître un peu contradictoire, le fait que Dieu veuille à la fois affirmer sa puissance et libérer l'homme.
Oui. D'abord, faut prendre attention parce que Dieu est extrêmement faible parce qu'il est amoureux. C'est-à-dire qu'il se laisse faire par nous. On peut l'abuser, on peut cracher la face, on peut faire comme la
vous
femme.
Vous me dites que Dieu est vulnérable.
Et ça est complètement vulnérable, comme la femme qu'on aime. C'est pour ça que c'est dangereux, l'amour, parce que tu peux abuser l'autre.
Mais ça, c'est pas une image courante de Dieu. Là.
Non, mais c'est celle du Nouveau Testament. C'est celle qui a converti peut-être Camus avant de mourir.
Ben, vous devriez nous le répéter, je pense. Là, je pense que ça fait du bien à toi.
Ben, dans l'Ancien Testament, Dieu est tout puissant. Il pète les orages, il fait péter les montagnes, il est tout puissant. Les Juifs ont même pensé qu'il détruisait leurs ennemis. Alors qu'on voit bien que le Dieu du Nouveau Testament, qui est le même, hein, seulement qu'il y a un progrès dans la Révélation, dans le Nouveau Testament, Dieu, il guérit ses ennemis. C'est un médecin. C'est pas un charcuteur qui vient tuer le malade. Alors, dans le Nouveau Testament, Dieu est complètement vulnérable à nous. Il monte même sa croix. Il accepte de monter là. Mais justement, par ses blessures, il va nous montrer notre erreur et atteindre notre cœur par sa bonté et ainsi nous guérir. Alors, c'est Dieu nous guérit par les blessures qu'il a, qu'on lui a faites et qui, en fait, nous font nous retrouver nous-mêmes dans l'erreur et étant pardonnés, on arrête d'y faire. Alors, tout être amoureux guérit un autre.
Moi, je vais vous poser une question, puis j'ai comme l'impression là, que vous allez me répondre que ça relève de votre foi. Ben, je pense que c'est à votre foi là, que je m'adresse. C'est une réaction bien humaine hein, que de percevoir la souffrance comme un cul-de-sac, une épreuve vaine qui n'a aucun sens, qui mène nulle part. Mais vous, vous affirmez au contraire que la souffrance prospecte de nouveaux gisements, qu'elle est toujours au terme du devenir de quelque chose en soi. Monsieur Truchon, c'est une affirmation qui est bien encourageante, mais qu'est-ce qui vous permet à vous d'en être aussi certain?
D'abord, c'est pas ma foi personnelle, bien que ma foi est bien personnelle. C'est la foi de l'Église, c'est le cœur du christianisme. Qu'est-ce que c'est que le christianisme? Ben, vous rentrez dans une église, vous voyez une croix. Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? Ben, c'est du pain, c'est bien sûr, ça prend pas une grosse santé pour voir ça. Seulement que le Christ est là, en train de se livrer à toi pour te guérir et te faire passer de la mort à la vie, de la vie naturelle à une vie éternelle, autrement dit, d'avoir tout le kit de l'infini que tu désires partout, finalement. Alors, le mystère profond de notre foi, c'est un être amoureux qui nous aime le premier alors qu'on le mérite pas. Et c'est cet amour-là qui fait que, pour Dieu, premièrement parce qu'il est tout-puissant d'abord, alors pour Dieu, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des étapes. Quand il a parti le monde, pas moi qui l'ai parti, c'est lui. S'il l'a parti le monde, c'est parce qu'il savait qu'il allait le finir un jour et qu'il allait réussir, il n'aurait jamais parti ça s'il ne pouvait pas le finir. C'est pas il n'y a pas eu un caprice, là. Quand Dieu m'a mis au monde, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait me réussir, moi, Raymond Truchon. Alors, il est capable de me réussir. Le premier article du Credo, c'est « Je crois dans un Dieu tout-puissant capable de réussir Raymond Truchon ». Mais il n'est pas facile à réussir Raymond Truchon, bien sûr. C'est vrai.
Et fait, bien d'autres avec lui,
probablement.
Ce sont pas faciles.
Maintenant, ce qui arrive, c'est que ce Christ-là, ce Dieu-là, est libérateur, c'est qu'il est prêt à mourir pour moi, il l'a fait. Avant même que j'existe, il l'a fait, parce que le Christ est avant 1932, là. Il fait longtemps qu'il est mort pour moi. Alors, il est mort pour moi. Alors, il m'aime. Alors, il m'aime. Pour moi, il n'y a plus d'échec non plus, il y a des étapes.
Mais est-ce que tout le monde... peut se sentir aimé sans vraiment le savoir, sans avoir la connaissance, sans avoir la conscience que Dieu les aime.
Oui.
Je parle des gens qui ne connaissent pas Dieu.
Oui, parce qu'on peut faire l'amour sans savoir la définition. Il y a beaucoup de personnes qui sont à un deux ou degré de sainteté, puis ils ne savent pas du tout. D'ailleurs, une personne qui est bonne, vraiment, elle ne sait même pas qu'elle est bonne. Tu vas lui dire, ouais, toute surprise. Mais celui qui prétend être bon, alors lui, bah, si tu lui dis qu'il est mauvais, là, il va être bien surpris. Autrement dit, la sainteté, là, on se canonise pas soi-même.
J'allais vous demander, est-ce que c'est possible d'être saint, là, dans le fond de la jungle? C'est ça, là. C'est de n'avoir pas connu Dieu d'être quand même...
Ouais, mais avec les écureuils, on va quand même pas loin, là. C'est que l'Église est nécessaire, l'instruction est nécessaire, la foi vient de l'entendement, il faut la prédication, il faut des témoins réels, il nous faut des saints dans nos maisons. On en a, mais il faut les voir. Alors, toute personne qui est bonne envers une autre, elle est en un état de salut. Toute personne qui t'aime est bien partie.
Alors, c'est là que ça devient très important de prêcher la parole.
Prêcher la parole, puis semer, la vivre, et de ne plus croire qu'on est en état d'échec et qu'on peut ne plus croire qu'on se laisser écraser par quelque situation que ce soit.